SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une rockstar devenue ministre. Il s'agit de Peter Garrett, le chanteur du groupe Midnight Oil, sûrement l'un des groupes de rock australiens les plus connus de la planète. Alors, il danse un peu différemment et surtout, il a plus de cheveux. C'est Romain Fati. Bonjour, c'est avec vous qu'on va... parler de Peter Garrett aujourd'hui, comme d'habitude dans notre série.
Bonjour, merci de me recevoir. Oui, en effet, je danse différemment de Peter Garrett.
Alors, il y a beaucoup à dire sur ce monsieur qui a donc à la fois a été et continue d'avoir une carrière musicale très impressionnante et donc aussi une carrière politique. On va donc faire deux épisodes pour parler de Peter Garrett. Et dans celui que vous écoutez actuellement, on va s'intéresser d'abord à sa carrière musicale. On connaît bien sûr des grands tubes hein, comme « Beds Are Burning ». Et la particularité de ce groupe, c'est qu'il a toujours été très engagé au niveau des messages qu'il portait dans ses chansons. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Romain Fati?
Oui, alors je pense que d'abord, il faut replacer ça dans le contexte historique, parce que tout le monde n'est pas au courant de l'âge de Peter Garrett. Il est né en 1953. Donc, il naît dans l'Australie de Robert Menzies, qui est Premier ministre à l'époque, qui est une Australie... dormante, pour le dire très gentiment. Et donc, dans sa vingtaine, à l'âge de 20-21 ans, il commence à jouer avec ce qui s'appellera Midnight Oil très prochainement. Donc là, on est au tout début des années 70, 72, 73, 74. Et ce groupe, au début, joue énormément à Sydney et puis commence à étendre, dirais-je, sa base de fans, en fait, et puis voyage dans les grandes villes australiennes et commence à se faire une petite réputation, un petit nom. Et la gloire réelle arrive dans les années 80, surtout au milieu des années 80, où ils enchaînent les albums 84, 85, 87, avec des gros succès, non seulement en Australie, mais aussi qui arrivent dans les hit-parades des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Suisse, enfin de tout un tas de pays. Donc c'est un des groupes australiens les plus connus, à la fois en Australie et en dehors des frontières de l'Australie.
Alors, le répertoire de ce groupe, il y a trois grands thèmes qui sont souvent abordés. Une position anti-guerre et anti-nucléaire, un attachement fort à la protection de l'environnement et également donc les droits et la reconnaissance des aborigènes en Australie. Je vais commencer par l'opposition à la guerre. C'est un sujet qui est exprimé très fortement dans l'un des premiers albums du groupe qui s'appelle 19-8-7-6-5-4-3-2-1-0 avec un morceau notamment qui s'appelle Short Memory. Et évidemment, ce compte à rebours, eh bien, c'est un compte à rebours qui n'est pas censé nous rassurer non plus sur la marche du monde au début des années 80 quand sort cet album.
Alors, absolument. Et là-dessus, il y a plusieurs choses à dire. Les trois thèmes que vous avez rappelés, guerre nucléaire, environnement et les droits des aborigènes, ce ne sont pas des thèmes d'un groupe de pop tradi, et par ailleurs, ce ne sont pas des thèmes qui auraient été utilisés ça et là, juste pour une chanson. C'est absolument constitutif de l'identité musicale et politique du groupe sur plusieurs décennies, encore aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur effectivement ces débuts qui parle énormément de la guerre, mais surtout en fait de l'arme nucléaire. Il y a deux choses à dire. La première, c'est que vous êtes dans un contexte de guerre froide, dans un pays qui n'a pas l'arme atomique. Donc, vous ne vous sentez pas nécessairement rassuré. D'autant plus quand vous accueillez parmi les assets les plus importants de la zone Indo-Pacifique des États-Unis, hein, qui se trouvent des bases d'écoute, par exemple, qui se trouvent en Australie. Donc, si vous voulez, à l'époque de la guerre froide, l'Australie est une réelle cible. Hein, les coordonnées de certains sites américains en Australie sont dans les bases de données soviétiques. Donc, il y a cette idée que non seulement l'Australie peut être touchée par la guerre nucléaire, mais que par ailleurs, le monde pourrait s'anéantir lui-même. Ça, c'est quelque chose que les plus jeunes générations disons, nos contemporains aujourd'hui en 2024 ont un peu oublié, hein. La menace nucléaire dans les années 60, 70, 80, c'est pas quelque chose de farfelu, c'est quelque chose que les gens ressentent réellement. Et par ailleurs, ça se couple dans le contexte australien à la question de l'uranium et donc des mines qui causent énormément de problèmes environnementaux. Donc dans les années 80 et même 90, et quand Jacques Chirac avait repris les tests, les essais en français nucléaires dans le Pacifique, ça avait été un véritable levée de bouclier en Australie. Donc aujourd'hui, la conversation sur le nucléaire prend piano piano, mais pendant des décennies en Australie, non seulement la bombe nucléaire avait mauvaise réputation, mais en plus l'uranium avait mauvaise réputation. Et un des albums de Midnight Oil, très connu, qui s'appelle Red Sails in the Sunset, qui est sorti en 84, la couverture de cet album, c'est une photo, enfin, pardon, c'est pas une photo, c'est un dessin de Sydney. Donc on voit le pont, on voit l'opéra, et on voit deux énormes cratères de bombes qui sont censés représenter Sydney après une apocalypse nucléaire. On comprend l'imaginaire par ce dessin et bien évidemment les chansons qui se trouvent dans l'album également.
Alors, vous le disiez, c'est à cette époque clé, la première partie des années 80, que Midnight Oil commence à se constituer une base de fans assez solide en Australie. Mais leur vraie percée à l'international, c'est en 86. Le groupe vient de terminer une très longue tournée à travers tout l'Outback dans le cadre d'une tournée qui s'appelait Blackfella, Whitefella. Et cette tournée, d'après Peter Garrett, ça leur a vraiment ouvert les yeux à l'ensemble du groupe aux difficultés rencontrées par les aborigènes en Australie. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'embrasser vraiment cette cause.
Oui, absolument. Alors, il faut voir qu'il y a quand même peu de grands artistes qui vont se produire dans les communautés aborigènes les plus reculées. Et ils ont l'intelligence de le faire. Ils parcourent l'Australie pendant ce tour, hein, Whitefella, Blackfella, et sont accompagnés de certains artistes aborigènes. Donc, certains lui ont cassé un peu du sucre sur le dos en disant ah, c'est très facile, hein, vous allez quelques semaines, vous redécouvrez, etc. Et en réalité, non, l'engagement de Midnight Oil pour la cause aborigène, qui parfois a été dénoncé par quelques leaders aborigènes, est de manière générale positif, non seulement sur la notoriété, mais également pour faire avancer des sujets comme le droit du retour aux terres, par exemple. Donc, pendant ce tour de l'Australie, il a vraiment conscience de la réalité de l'ampleur des inégalités, qu'elles soient économiques, qu'elles soient des inégalités, pardon, de santé également, et disons la situation assez catastrophique dans l'ensemble des communautés aborigènes dans l'Australie du milieu des années 80. Pauvreté, manque d'accès à l'éducation. Et donc, le groupe décide de s'investir de plus en plus avec les chanteurs aborigènes, les leaders aborigènes, et surtout sur cette question, et de la promouvoir dans leurs albums. Donc, dans de très nombreuses chansons de Midnight Oil, il y a référence à des crimes qui ont été commis contre les aborigènes, ou au fait que les choses doivent changer. Comme vous dites, la chanson la plus connue à l'international de Midnight Oil, c'est Beds Are Burning. Et en fait, grosso modo, le couplet principal pose la question de comment peut-on dormir quand notre planète brûle. C'est à la fois sur l'environnement, sur les dégâts que l'homme cause à la planète, mais c'est aussi sur, grosso modo, en fait, le temps est venu de reconnaître que la terre des aborigènes a été volée et que nous devons maintenant payer le loyer. Hein. Et donc, vous pouvez entendre ça sous plein de formes. Ça peut être des compensations financières, mais ça peut être aussi quelque chose de plus global, un mouvement de rétribution des terres aux aborigènes, qui est la grande question du moment à l'époque en Australie. Tous les années du Premier ministre Bob Hawke, on parle énormément de réconciliation. Alors, Bob Hawke devait apporter un traité qu'il n'a pas apporté, hein, une grande erreur politique de son temps, et le bâton est repris par le Premier ministre travailliste Paul Keating, qui lui aussi est un vrai promoteur de la réconciliation. Ce moment s'arrête avec les libéraux au pouvoir qui reviennent 96-97 avec John Howard, mais quand Midnight Oil chante la cause aborigène, chante le retour aux terres, on est dans ce moment où la majorité des Australiens commence à soutenir ça. Et en réalité, ce changement s'opère à partir de 1992 avec le jugement Mabo, qui est rendu par la Cour suprême australienne, qui ouvre la porte à la rétribution des terres de la couronne, à savoir le Commonwealth of Australia, aux groupes aborigènes, aux peuples aborigènes qui peuvent trouver une connexion ancestrale à ces terres. Donc, Midnight Oil est à la fois très novateur, mais s'inscrit aussi dans un moment socio, politique et culturel qui favorise les prises de position que le groupe prend.
C'est le point que je voulais voir, que vous avez en partie répondu sur la question des droits aborigènes, c'est si tous ces discours très politiques portés par Midnight Oil, ils étaient à l'époque où ils sont sortis contestataires à contresens du vent dans lequel allait la société, ou au contraire, est-ce qu'ils accompagnaient ce mouvement? Donc pour la cause aborigène, je comprends qu'ils s'inscrivent plutôt dans un mouvement plus général. Est-ce que c'est vrai également des deux autres grandes causes qu'ils défendent, donc l'opposition à la guerre et au nucléaire en particulier, et la question de la protection de l'environnement qui peut-être dans les années 80 faisait moins consensus qu'aujourd'hui?
Oui, totalement. Alors, je serais tenté de répondre les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que dans Midnight Oil, qui séduit énormément d'Australiens, vous avez tout un tas de positions, certaines sur lesquelles on peut se reconnaître et d'autres peut-être moins. Ce qui fait que c'est pas un groupe totalement idéologique. C'est-à-dire que ça peut pas nécessairement être classé à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Vous voyez, ils ont plusieurs colorations. Et ces colorations font que, sur la cause aborigène, effectivement, ils s'inscrivent dans un mouvement plus global, hein, qui a commencé avec le référendum de 67. Et donc, finalement, ils sont progressistes, mais ils accompagnent un mouvement plus général de la société australienne. En revanche, sur la question, par exemple, de l'engagement australien aux côtés des Américains et sur le danger que peuvent représenter les guerres américaines çà et là au cours de la seconde moitié du XXe siècle, là, ils sont plutôt en opposition. Hein, ils sont en opposition avec le statu quo australien qui est un soutien total aux États-Unis. Alors, que les Australiens, en termes de population, soient d'accord ou non, ça, c'est une autre question. Mais c'est quelque chose qui ne passait pas très bien à l'époque, puisque les États-Unis sont vus comme le principal allié et protecteur de l'Australie dans la région, alors que Midnight Oil voit ça comme un peu une forme d'impérialisme contemporain. Donc là-dessus, ils sont plutôt isolés. Sur l'uranium et sur la question du nucléaire, en revanche, là, ils sont plutôt représentatifs, peut-être un peu plus, comment dirais-je, un peu plus prononcés, mais à peu près représentatifs de la majorité des Australiens sur le sujet dans les années 80-90. Et on retourne du côté novateur quand on se penche sur la question de l'environnement, parce que c'est un des premiers groupes qui, effectivement, fait de la question environnementale un de ses sujets de prédilection. Donc vous avez plusieurs chansons qui traitent de cette question-là. Non seulement plus récemment les inondations, réchauffement climatique, mais à l'époque se pose déjà la question de la pollution, en fait. Et donc, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais il y a une chanson d'eux qui est très connue, qui traite en fait de l'amiante.
C'est
Et donc,
Blue Sky Mine, c'est ça?
totalement, voilà. Et donc, c'est une chanson qui est assez particulière à écouter parce qu'en fait, on a l'impression d'entendre un discours politique, parce que c'est un discours politique, mais si vous voulez, c'est mis en chanson d'une façon qui est quand même très, ça laisse pas beaucoup de place à l'analyse, c'est très direct. Il s'agit en fait, Blue Sky Mining est d'une petite ville qui a depuis été fermée parce que vous avez à peu près 50 000 hectares, je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 50 000 hectares autour de cette ville qui est contaminée. Du fait de l'activité minière pendant plusieurs décennies pour extraire de l'amiante. Sur les à peu près 20 000 travailleurs qui ont travaillé dans ces mines pendant plusieurs décennies, vous en avez à peu près 10 000, hein, 2 000, pardon, donc à peu près 10% qui sont morts. Hein. Donc là, vous avez une dénonciation de, un, les dommages qui ont été causés à l'environnement par la destruction des sols, par les pollutions, les dommages que ça crée par rapport aux aux hommes, hein, et à ceux qui sont morts. Et à plusieurs reprises dans la chanson, on les excuse en disant qu'il s'agissait de, voilà, de mettre du pain sur la table, d'apporter à manger à la maison, et que, en fait, ces travailleurs sont bloqués par un système d'exploitation. Il est mentionné l'entreprise qui possède ces mines, qui est en fait une industrie, une énorme industrie du sucre. Et donc, Peter Garrett et le groupe dénoncent le poids des actionnaires, le profit. Et là, on est quand même au début des années 80. Donc, ce sont des choses qui sont assez récurrentes dans les chansons un peu activistes et engagées aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est très novateur de parler d'actionnaires et de profits dans une chanson. Et c'est un succès.
On a beaucoup parlé jusqu'à présent du répertoire et à raison hein, de Midnight Oil, à l'intérieur duquel on trouve beaucoup de tubes. On a évoqué certains d'entre eux ici. Mais c'est un groupe, c'est l'un de ces groupes qui est également très connu pour ses performances scéniques. Ce sont de véritables bêtes de scène. Peter Garrett en particulier, qui a un style de danse eh bien, unique en son genre. Hein. Je ne vois pas comment le désigner autrement. Ils ont réalisé donc des performances vraiment de légende au cours de leur carrière. Ils ont aussi mené un certain nombre de coups d'éclat, mais le plus connu d'entre tous, c'est lors de leur concert pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney en 2000.
Oui, tout à fait. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le style de danse de Peter Garrett, je les invite très fortement à aller regarder ces clips parce que c'est quelque chose. Alors, c'est pas Mick Jagger, mais en termes d'activité physique, on s'en rapproche. Hein, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté politique. Et vous faites bien de rappeler cette scène qu'ils ont faite lors des JO de Sydney en 2000, hein, c'est une époque où c'est télévisé en direct, donc il passe devant quasiment 1 milliard de personnes, ce qui est absolument gigantesque. Et c'est un moment, hein, 2000, où l'Australie a changé de gouvernement, est passé un gouvernement à droite, très à droite et très radical, qui considère qu'en fait la réconciliation avec les aborigènes, c'est pas le cœur du sujet, c'est pas très important et que surtout il ne faut pas rendre les terres. Donc, après une période progressiste dans les années 70, 80, 90, il y a un retour de bâton qui s'opère avec le gouvernement, les gouvernements de John Howard, parce que c'est le premier ministre qui a servi le plus de termes après, de mandat, pardon, après Bob Menzies, donc il reste quand même 11 ans au pouvoir. Et ce que fait Midnight Oil, c'est qu'il chante effectivement cette chanson, hein, Beds Are Burning, qui est une chanson qui est bon, dans les années 2000, connue de tous quasiment en Australie et de beaucoup dans le monde entier. Donc, cette chanson est choisie pas nécessairement parce qu'elle est politique, mais parce qu'elle est très connue. En revanche, le geste politique, c'est que sur scène, tous les membres du groupe arrivent avec un t-shirt où il est écrit désolé ou excusez-nous, pardon, sorry. Et donc, sorry, ça s'adresse évidemment aux populations aborigènes. C'est une manière de dire on est désolé pour ce qui s'est passé, on est désolé pour les massacres, on est désolé pour le vol de la terre. Et tout ça est en opposition totale avec les positions du gouvernement Howard. Donc, c'est vraiment un coup médiatique de monopoliser la télé devant près d'un milliard de personnes lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, qui sont généralement hein, des événements politiques. Hein. C'est pas que du sport, les Jeux Olympiques.
Bien sûr, oui. Et la politique, la carrière politique de Peter Garen, ce sera eh bien, ce qu'on examinera de plus près dans un deuxième épisode qui arrivera après celui-ci. En tout cas, merci déjà Romain Fati pour la première partie de cette biographie, la carrière musicale de Peter Garrett, sur laquelle on en sait désormais beaucoup plus. Merci et donc à très bientôt pour la suite de cette histoire.
Merci et à très bientôt. Bonne journée, Grégory.